Bonjour, bienvenue si vous nous retrouvez sur les ondes de RTM 33. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Caïde. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Pour vous présenter, Fabrice, vous êtes cofondateur et directeur de l'atelier d'Éco-Solidaire.
C'est ça.
Vice-président du Club des entreprises de Bordeaux.
Tout à fait.
Et pour finir, administrateur de l'association Renaître.
Exact.
Voilà. Alors, on pourrait peut-être commencer par vous demander en quoi, quelque part, la conscience écologique ou comment la conscience écologique vous est venue.
Elle m'est venue, je dirais, un petit peu par hasard, parce que c'est vrai que je ne suis pas d'une génération, sans dire mon âge, où l'écologie était au centre des préoccupations. En tout cas, elle l'était, mais elle n'était pas connue du plus grand nombre. Elle était connue que d'un cercle restreint, je dirais, malheureusement. Et donc, c'est plutôt par rapport à un annihilement de planète entre des compétences qu'on cumule à un certain moment, notamment dans la transformation de matière, dans la créativité, dans la déco, et puis d'un seul coup être en phase avec des problématiques publiques de déchets, de réduction des déchets, etc., et de se rendre compte en fait que toutes nos compétences peuvent correspondre à créer un modèle qui rentre à un service d'intérêt général et qui sort en plus dans des obligations territoriales. Donc tout ça, c'est, comme je disais, des planètes qui s'alignent et on se dit, bah tiens, ça c'est un sujet intéressant.
Et la conscience qui s'éveille donc.
Eh bien la conscience qui s'éveille, oui, en faisant, oui, dans l'action en fait. Parce que c'est vrai qu'en 9 ans, en n'étant pas du tout, en connaissant ni, enfin je dirais, les principes associatifs dans le sens... organiser une association en tant que dirigeant, être dans une logique écologique, l'écologie, enfin pour moi c'était surtout politique et donc c'était pas très réjouissant comme modèle et donc, en devenant acteur, en faisant des choses, en construisant des modèles, en trouvant des solutions, en faisant des expérimentations,
on avance petit à petit.
Voilà, oui, on se rend compte en fait de tout ce qu'on est possible de faire et puis c'est tout ce qui est positif dans l'écologie. À partir du moment où on commence à faire, plus on fait et plus on a envie d'en faire. Et nous, on le voit très bien, surtout là sur une échelle de presque 10 années, avec tous les gens qui travaillent autour de nous, on voit bien à quel point on est tout le temps en envie en fait, d'en faire plus. En fait, parce que c'est ça aussi qui est vraiment l'espoir de l'écologie, c'est que ça crée de l'estime de soi. Et être acteur d'écologie aujourd'hui, avec ce qu'on sait que... des conséquences, en fait, d'un comportement, on va dire, trop de consommation excessive, etc., ben, ça permet, en effet, de générer de l'estime de soi. Et ce qui est intéressant dans ce processus, en fait, psychologique d'estime de soi, c'est qu'il concerne aussi bien les gens dans les quartiers prioritaires, puisqu'on a des actions dans ce genre de quartier, que des gens avec des revenus moyens plus élevés que les autres. Donc, c'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est comment on se rejoint, comment c'est transversal. Auprès de un spectre de population extrêmement large.
Alors, vous parliez d'expériences, de 9 années qui se sont écoulées. On parle bien sûr de l'atelier d'Éco-Solidaire. Est-ce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pourriez un petit peu expliquer la démarche, dire où est votre atelier et puis ce qui s'y passe?
Oui, alors l'atelier, il est au bassin à flot, hein, sur la commune de Bordeaux, rue Lamotte-Piquet. En fait, si je reprends l'histoire, en effet... comme on avait déjà une grosse expérience avant la recyclerie de transformer la matière, notamment à travers un magazine de déco à faire soi-même qu'on a édité pendant 11 ans, on se rendait pas compte en fait avant de créer la structure que énormément d'objets en fait étaient détruits, jetés alors qu'ils étaient en parfait état d'usage. Et donc d'un côté, il y a des gens qui peuvent pas s'acheter des objets et d'autres des gens qui les jettent. Et puis, toute la conséquence environnementale, en fait, hein, de jeter ces objets, donc qui est quand même assez stupide alors qu'ils pourraient être utilisés.
D'en racheter d'autres.
Voilà, d'en racheter d'autres, évidemment, bien sûr. On peut trouver légitime, en effet, que d'un seul coup, le meuble qu'on a au milieu de son salon ne correspond plus à ses critères, puis on a envie de changer. Mais le minimum, c'est que ce meuble, s'il est encore utile, il soit mis dans les bonnes structures, Emmaüs, les recycleries, les ressourceries, voilà. Ça met dans les bonnes structures pour que quelqu'un y trouve un nouvel utilisateur, parce que cet objet le mérite, et puis l'environnement le mérite aussi, qu'on, qu'on n'aille pas rechercher dans les ressources naturelles. Donc le démarrage en fait de la recyclerie créative, c'était de mettre un peu son nez là-dedans, de comprendre les articulations, je dirais juridiques, de comprendre aussi les obligations territoriales, puisque nous c'est un partenariat avec Bordeaux Métropole. Hein, sans les politiques publiques, nous on pourrait pas exister. Et puis comment nous on pouvait à travers les compétences qu'on avait, qui étaient un petit peu différentes de la ressourcerie classique ou la recyclerie classique, d'intégrer la créativité dans le modèle, voilà. Mmh. Et on est parti de ce postulat. On savait qu'on avait plein de compétences en communication, en transformation de matière, en organisation de structures, puisque on avait déjà eu des entreprises avant, donc on savait à peu près
comment ça fonctionnait,
comment on fait un plan comptable, comment la comptabilité, les bilans, enfin tout ça.
Oui, tout ce qui sert au fonctionnement d'une entreprise.
Voilà, absolument. Et puis évidemment, comme on rentrait dans un sujet très politique et puis un sujet aussi très technique, puisque dans les territoires, les politiques décident, puis après ceux qui mettent en œuvre les politiques, c'est les techniciens dans les collectivités. On avait aussi le charisme de la confiance, en fait. Quand on est arrivé, les gens nous faisaient confiance. Ils mettaient pas en cause que on risquait de pas y arriver. Mmh. Enfin, dans le sens.
Oui, vous aviez un véritable savoir-faire.
Voilà, on avait déjà une
des compétences.
Des compétences. Reconnues. Voilà. Je dis ça, c'est important parce qu'on accompagne beaucoup de jeunes dans la structure et c'est aussi tout ce qui est motivant dans cette activité et que nous aussi on a été jeunes, on a aussi été jeunes entrepreneurs et on sait à quel point, enfin, je dirais, ne pas avoir confiance de ses parties prenantes, ne serait-ce que juste parce qu'on est jeune. C'est vraiment aussi des fois un handicap pour avancer dans des modèles d'organisation, quoi. Donc ça a été quand même une force de départ, voilà. Après le postulat qu'on avait, c'était de se dire on va récupérer ces objets, quoi, que les gens n'ont plus besoin, et on va trouver autre chose. Alors après, ce qu'on a découvert, c'est évidemment la quantité et la qualité, puisque nous précédemment on avait l'habitude d'aller dans les vide-greniers, d'aller dans des dépôts-ventes.
Et finalement, de rendre un service aux gens en les débarrassant de tout ça.
Oui, voilà. Et là, de se dire, en plus, voilà, on pourrait aller chercher les meubles que les gens veulent plus. Alors, nous, on pensait que les meubles que les gens jetaient, ils étaient dégradés, donc faudrait les réparer, peut-être. Enfin, voilà, on était un peu là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Enfin, ce qu'on reçoit, nous, est une telle qualité, en fait, que même la réparation n'est pas cohérente, dans le sens où la réparation, ça coûte cher. Et qu'à partir du moment où ça coûte cher, on peut pas le vendre à bas coût. Et c'est une de nos ambitions aussi. Et c'est aussi les fondements du projet. C'est comment on récupère ces matières. On les revend, évidemment, parce qu'on a besoin d'une ressource pour l'organisation. Mais c'est l'idée qu'elle soit à bas coût et que ce soit accessible le plus possible pour, du coup, augmenter le pouvoir d'achat, notamment pour des gens qui
n'ont pas les moyens, forcément.
Voilà, notamment sur des équipements de base, quoi. Voilà.
D'accord. Et alors, justement, est-ce qu'il vous arrive maintenant, d'après ce qu'on comprend, d'être peut-être dépassé par tout ce que ces gens jettent? Comment vous faites? Vous refusez aussi, des fois, d'aider, de prendre des meubles, en dépôt, des choses qu'on vous donnerait?
C'est toute la complexité, en fait. Souvent, on l'a comparé, parce qu'on a des volontaires en service civique, et sur un bilan de fin de volontariat, il y a une jeune fille, là, au printemps, qui m'a dit, c'est vrai que cette matière qui arrive, on dirait Sisyphe, parce que nous, elle arrive, on essaie de... on enregistre déjà tous les poids, on caractérise tout ce qui rentre, le poids du meuble, on le rentre dans les catégories meubles, donc on sait... à la minute près, enfin tout ce qu'on reçoit, en fait, et puis on s'organise comme ça, on reçoit d'un seul coup plein de choses, alors surtout au mois de juillet, au mois d'août, parce que dès que les gens ont un peu de temps, en effet, ils font des rangements, ils trient chez eux, et puis on essaie de s'organiser, et puis ça arrive tout le temps, c'est très déconcertant, en fait, parce qu'il y a un côté curiosité, hein, le principe, enfin, de remettre comme ça à disposition des objets, on sait jamais quel objet on va avoir du jour au lendemain. On est aussi, enfin je dirais, pour ceux qui viennent au-delà du prix, qui est quand même très important, parce que c'est aussi ce qui valide la vente, c'est un marché d'opportunités. Il y a des fois on a des choses qu'on va avoir là vraiment pas cher, parce que là souvent on a un lot, là par exemple on a récupéré je crois 500 oreillers d'un camping qui les change tous les ans, donc on les récupère, donc c'est des oreillers à 1 euro, donc là d'un seul coup et une opportunité, et puis et à la fois, en effet, sur un espace quand même assez contraint, on a calculé qu'on avait près de 550 mètres carrés d'accession au public pour pouvoir acheter ces produits, et que ces 550 mètres carrés, où on est quand même une métropole avec 750 000 habitants, il n'y a pas beaucoup de structures comme la nôtre, et là aussi il y a un vrai sujet d'en créer d'autres, justement, ça fait beaucoup de matière, ça fait beaucoup de volume, et que des fois on peut être en effet un peu déconcerté, dépassé par le mouvement. Mais c'est pas seulement nous, enfin, je dirais que c'est national en fait. Hein. C'est un problème dans toutes les ressourceries, recycleries, on va dire, de France, qui à un moment donné ont un flux d'objets considérable en fait.
Alors, est-ce qu'il arrive des fois que vous récupériez des choses et que finalement elles ne trouvent pas place chez vous et que vous filiez, peut-être des bêtises, dans des diverses déchetteries pour vous en séparer, ou comment ça se passe? Ou vraiment voilà. Tout ce que vous prenez, c'est vraiment acquis?
Voilà, alors, nous, du fait qu'on est. On est peu, et puis qu'on va soit chercher à domicile, ou soit les gens nous emmènent sur la plateforme, ce qui fait qu'on fait ce qu'on appelle une collecte sélective, c'est-à-dire qu'on va garder essentiellement les choses qu'on va pouvoir, ce qu'on appelle réemployer ou réutiliser, donc ils vont trouver un nouvel utilisateur, ou les choses dans lesquelles on a une filière de recyclage. Hein, par exemple, sur tout ce qui est meubles, on peut prendre tous les meubles, parce qu'on a aussi des bennes dans lesquelles on met ces meubles pour pouvoir aller dans les filières de recyclage. Donc, quand on n'a pas de filière de recyclage, en effet, on peut être débordé par une matière et nous, on n'a pas accès à la déchetterie. Enfin, c'est-à-dire que si demain, l'exutoire, c'est d'aller en déchetterie, ça nous coûte de l'argent, en fait. Donc, il y a quelque chose un peu compliqué parce que les moyens ne sont pas non plus importants qu'on a, malgré la ressource qu'on génère. Et donc, aller payer, je dirais, en déchetterie, ce qu'on serait susceptible de récupérer. Bon, là, le modèle économique n'est pas là. Par contre, voilà, on est sélectif, nous, quand on va chercher ou quand les gens emmènent. Bon, on est très proche d'une déchetterie. Hein, donc, si les gens, voilà, ils ont des choses que nous, on ne prend pas, on leur dit, voilà, allez-y. Enfin, voilà, c'est ouvert à tous les usagers de la métropole d'aller dans les déchetteries. On leur dit, voilà, de faire 500 mètres de plus et ils vont à la déchetterie. Mmh.
Alors, vous avez aussi également un showroom, je crois, où vous refaites, retapez, décorez, arrangez, embellissez des meubles. Vous travaillez d'ailleurs avec votre femme, Nathalie Caïd, et puis toute une équipe. Vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe? De personnes fixes, dirons-nous, sans forcément les services civiques?
Ah ben, on est 15 salariés. Mmh. Donc,
ce qui n'est pas rien.
Oui, ça commence à faire une équipe. C'est 15 salariés, c'est 12 qui sont en CDI. Donc, on en a 3 qui sont ce qu'on appelle en contrat aidé, donc des gens qu'on accompagne dans un futur projet professionnel après un sas à la ressourcerie pour se reconstruire, se réorganiser et puis se former. Donc on a 15 personnes. En effet, on a des volontaires en service civique, on a aussi des bénévoles, on a recueilli aussi beaucoup de gens en stage qui font de l'orientation, qui font des stages sur les métiers. Donc en gros, en fait, parce que moi j'aime bien parler de ça, parce que j'aime bien parler, enfin surtout dans le milieu associatif, du travail produit en fait, parce que le travail n'est pas forcément l'emploi chez nous. Et le travail, en fait, qui représente à peu près 25 équivalents temps plein, c'est-à-dire que la globalité du travail qu'on produit sur une année, c'est 25 personnes, en fait, à plein temps, qui sont là à travailler sur un sujet d'intérêt général, avec un impact positif sur l'environnement. Et donc, c'est ça aussi qui fait toute la satisfaction de ce modèle. Et puis, des fois, des parcours, notamment en bénévolat, de gens qui sont même pas en capacité d'aller chercher un emploi, mais qui petit à petit, psychologiquement, reprennent connexion avec eux-mêmes, reprennent connexion avec une organisation, reprennent connexion avec les autres. Et là, commencent à réenvisager la vie plus sociale à l'intérieur de leur famille, avec des choses à raconter, mais aussi, pourquoi pas, après, derrière, chercher un emploi. Donc là aussi, c'est une découverte, hein, enfin, en tant qu'entrepreneur, aucune expérience de bénévolat, moi, j'y croyais pas du tout. Et en fait, c'est un champ dans une société aujourd'hui qui est quand même... on laisse beaucoup de gens sur le bord de la route. En fait, les bénévolats est vraiment une chance, enfin, j'irai en France, hein, parce qu'il n'existe pas dans tous les pays européens, de faire participer des gens qui aujourd'hui sont complètement exclus du modèle social, emploi. Voilà, donc c'est quand même important d'aller aussi ce qu'on appelle l'inclusion sociale sur ce genre de personnes, en fait, et de leur donner aussi ce sas. Ça ressemble un peu aux matières, en fait. Hein. On est là sur des matières abandonnées que les gens veulent plus parce qu'ils considèrent. Et malheureusement, enfin, je dirais qu'il y a toute une humanité, enfin, tout un nombre de personnes, en fait, autour de nous, qui qui sont abandonnées par le système parce qu'ils sont plus productifs, parce qu'ils ont été malades, parce qu'ils ont fait un burn-out, parce qu'ils ont eu un accident, parce que les raisons, elles sont multiples. Donc, ils sont pris en charge pour une part, en effet, par la collectivité à travers des dispositifs handicap, chômage, etc. Mais pour autant, je dirais, leur intégration sociale ou leur vie sociale et leur morale, en fait, il est complètement dégradé parce qu'ils n'ont plus une place active. Des gens qui font rien, en fait, forcément dépriment. Dès qu'on est actif, dès qu'on rentre dans une activité, dès qu'en plus, comme une structure comme la nôtre, on rentre dans un collectif, on reprend connexion avec la vie, avec ce qu'on est, on se retrouve, en fait. Donc ça, ça, c'est quelque chose qu'on a complètement découvert par rapport au postulat de départ qu'on n'avait pas imaginé. Quoi.
Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement à vous ? Quelle richesse ? Vous en parlez là avec élan, je vois, j'entends, d'aider ces gens justement, de rencontrer, de partager le quotidien de ces personnes-là qui finalement reprennent vie, qui reprennent goût à la vie grâce à vous, quelque part, à l'organisation, à la structure, aux collègues aussi ?
Ben, en fait, on génère une forme de bonheur en fait chez ces gens que dans ma vie d'avant, on va dire, j'avais jamais rencontré. Enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, je dirais d'arriver à percher les gens. C'est pas d'ailleurs seulement que des gens en difficulté, hein, puisque c'est l'idée aussi à travers le salariat qu'on peut avoir, à travers les bénévoles qu'on peut avoir, à travers les volontaires. Comment cette activité, enfin, je dirais qu'il y a qui est vraiment voilà, d'intérêt général, avec la créativité qui a cette force aussi, enfin, je dirais, refaire de ses mains, retravailler de ses mains, revenir à des fondamentaux, en fait, bah, ça génère aussi beaucoup de bonheur. Et quand on voit les gens se réépanouir, enfin, se reconnecter, reprendre espoir, enfin, je dirais, dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vont pouvoir faire, bah, enfin, ça n'a pas de prix, en fait, ça n'a pas de valeur financière, ça n'a pas de prix. C'est ça vraiment qui nous rend... mobiliser, enfin, et toujours à l'écoute en fait, hein. Et puis à la fois, enfin, je dirais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que créer ce qu'on appelle nous une communauté humaine de travail, ben en fait, ben, y a des gens à qui ça correspond pas, il y a des gens qui vont pas se connecter avec les autres, il y a des gens et donc on a vraiment des solutions extraordinaires avec certaines personnes parce que je pense qu'elles nous ressemblent dans le sens on a un socle commun, je sais pas, il y a aussi
le partage, l'envie d'avancer. Voilà.
Oui, puis il y a l'irrationnel là-dedans. Changer. Enfin, je veux dire, entre humains, des fois, on se connecte directement, puis il y a des fois, on se repousse, en fait. Il y a quelque chose d'aimant.
Et donc, d'inexplicable.
Voilà. Et donc, créer cette communauté humaine, bah, c'est extrêmement complexe. C'est beaucoup de temps. C'est pour ça que les 9 ans aussi sont dedans. Et le fait, du coup, bah, d'avoir déjà un socle extrêmement fort, qui sont les salariés avec qui on est sur la longueur, qui sont en CDI et donc avec lequel on est en osmose dans l'organisation, bah, ça permet justement d'accueillir des gens qui sont... vraiment qui ont besoin de plus d'accompagnement, plus de temps et qui ont besoin de rentrer dans une structure qui fonctionne, qui tourne, quoi, qui n'a pas de conflit, qui n'a pas de problème, qui n'a pas non plus de problème aussi de hiérarchie ou d'autocratie. Enfin, voilà, donc c'est vraiment une organisation qui s'est posée comme ça au fil des années et en construisant sur la longueur avec un socle de personnes déjà très solide.
Mmh. Oui, c'est une vraie réussite, on peut le dire.
C'est une vraie réussite, oui, ça clairement.
Et un vrai bonheur d'aller travailler, Fabrice.
Oui.
Ça, c'est sûr. Une certitude. Bon, alors, on reviendra tout à l'heure sur l'atelier d'éco-solidaire et puis on parlera des dates qui sont annoncées.
Parce que tout à l'heure, on m'avait parlé du showroom, j'en ai rien dit, du coup.
Ah, bah oui, l'instant. Mais vous avez raison. Alors, le showroom.
Alors,
qu'en est-il du showroom ?
Oui, donc ce que nous on voulait faire avec Nathalie quand on a créé l'activité, c'était de la créativité. Hein, c'était transformer ces matières parce que c'est de la grosse expérience et c'était aussi tout ce que pouvait apporter Nathalie aussi bien. Moi, je suis plutôt dans l'organisation, la comptabilité, enfin voilà, la finance, enfin puis le essayer de trouver l'administratif, ouais. Voilà, de comprendre aussi les articulations. Dans lequel on va pouvoir aller au niveau politique, enfin voilà. Autant Nathalie, voilà, sa valeur ajoutée, c'était vraiment son expérience dans la décoration et comme directrice artistique en général, parce qu'elle est aussi photographe, donc ça nous a permis aussi de communiquer, puis toute l'expérience en communication qu'on avait. Donc c'était vraiment d'intégrer cette créativité pour transformer la matière. Et là, c'est bon, j'en ai dit des petits bouts tout à l'heure, c'est-à-dire que la créativité, bah, c'est un chemin, je dirais, complexe, parce que nous, la qualité qu'on produit est vraiment très, très, très importante dans le processus. On a des produits qui sont d'extrême qualité. Et donc, bah, il y a plusieurs déclencheurs, en fait. Il y a d'abord celui qui le fait, une satisfaction énorme d'arriver au bout du chemin, un peu comme l'alpiniste qui monte au Mont Blanc, et s'il va tout en haut, arriver en haut, il est complètement exalté. Et s'il s'arrête au milieu et qu'il ne va pas jusqu'en haut, il redescend avec de la frustration. Donc nous, dans la création, on est aussi ça, à aller vraiment tout en haut dans la qualité de ce qu'on produit. Et du coup, embarquer ceux qui la produisent dans cette satisfaction globale. Et puis aussi l'interpellation du coup du public, c'est très attractif. Du coup, les objets concrets, et ils sont très attractifs, donc ils créent évidemment de l'interpellation à tous ceux qui visitent le showroom, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez étonnant. Mmh. Et donc, voilà, c'est l'interpellation. Et surtout quand on voit juste à côté, puisqu'on est en même temps d'où on vient, enfin, parce que les matières ou les objets, voilà, on a les deux, on a le brut et puis
oui,
on a.
En l'état.
En l'état, voilà.
Et puis on a le transformé,
voilà, tout à fait, ouais. Et donc, tout ce chemin qui est pratiqué. Et donc, évidemment, bah, ça a créé un modèle de recyclerie particulier pour ça, pour le grand public. Et puis, de l'autre côté, bah, les capacités qu'avait Nathalie aussi dans la décoration, c'était aussi de proposer aux entreprises, notamment dans le cadre de la RSE, de transformer des espaces symboliques de leur entreprise, qui sont souvent des espaces où les gens ne travaillent pas, où on va quand même mettre un peu de moyens pour que les gens, quand ils se posent, bah, ils soient dans un lieu qui soit beau et avec toutes les logiques de développement durable dans laquelle on est. Donc, c'est ça la créativité qu'on a réussi à intégrer. Et dans les groupes sociaux, enfin, je dirais très complexes qu'on a, parce qu'on fait aussi des programmes avec des foyers occupationnels, donc des gens qui sont sur handicap ou des ITEP qui sont des gamins qui sont déjà en difficulté sociale. Ou, bah, la créativité, en fait, elle est incroyable. Elle est incroyable en termes de reconstruction. Elle est incroyable en termes d'espoir, en fait. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a exploré, enfin, voilà, qu'on a défriché dans ce domaine. Et du coup, on a aussi interpellé, là, plutôt au niveau national, du fait qu'on communique beaucoup sur notre activité, bah, des gens qui, avant, faisaient des recycleries ou des ressourceries vraiment sur le modèle social, bah, comme Emmaüs, hein, qui est notre grand frère. Et puis aujourd'hui, on interpelle des gens avec la créativité qui se disent bah, voilà, que la créativité, ça porte aussi un d'autres modèles, en fait. Et donc, des possibilités aussi dans différents territoires de développer des structures un peu comme les nôtres, enfin, en tout cas d'inspiration pour avoir un objectif toujours le même, en fait, hein, c'est de pas jeter ces objets, de pas les détruire et donc d'avoir une empreinte positive sur notre activité.
Mmh. Oui, donc, et en plus, ce n'est pas terminé. J'imagine que vous avez aussi pas mal de souhaits ou de projets pour la suite, c'est-à-dire ce concept, ce modèle, vous comptez développer d'autres parties encore, vous, au niveau de la créativité?
Alors, bah, après, sur la créativité, là où on se retrouve, du coup, contraint, c'est aussi après les infrastructures. Hein. C'est fait, comme je disais, on a un partenariat, la place, les infrastructures. Hein. Le partenariat qu'on a, notamment avec la collectivité, c'est d'avoir justement les infrastructures à disposition. Donc, on s'adapte avec l'infrastructure qui nous est mise à disposition, ce qui est déjà une avancée, enfin, je dirais, en termes de politique publique. Et puis, et après, on se retrouve aussi à avoir, bah, comme n'importe quel gestionnaire, est-ce qu'on prend un ébéniste de plus? Est-ce qu'on prend une tapissière de plus? Parce que voilà, ce que j'ai pas dit dans la créativité, qui est quand même un des fondamentaux, c'est aussi de donner l'opportunité de salarier des gens de l'artisanat, et particulièrement des gens qui n'ont pas de travail, puisque nous, 100% des salariés étaient au chômage, et des gens qui avaient des qualités manuelles, des qualités techniques, qui ne trouvaient pas de travail dans l'artisanat, notamment la tapisserie, c'est très compliqué de trouver du travail, l'ébénisterie, enfin. Il y a tout un tas de métiers comme ça, extrêmement riches, peintres en décor. Et alors que là, c'est tellement cohérent avec tout ce qu'on reçoit de les transformer, quoi. Donc on est un peu dans cette logique d'externalités qui sont extrêmement négatives, qui est de jeter ses affaires. Ben, on en fait des externalités extrêmement positives, de créer de l'emploi, notamment dans l'artisanat, en insertion, et d'accueillir des gens, et voilà, et de réduire l'impact environnemental, ben, de notre consommation.
Oui, donc un beau projet déjà. On peut le dire. Donc, l'atelier d'éco-solidaire, on vient d'en parler, Fabrice. Et vous êtes également vice-président, je le disais tout à l'heure, du Club des entreprises de Bordeaux. Alors, comment vous êtes arrivé à ce poste-là? Sont-ils vous chercher?
Oui,
et comment ça se passe après?
Non, ils ne sont pas venus me chercher. Non, bien sûr que c'est moi qui ai été volontaire. Après, c'est un peu le chemin de l'autodidacte. Nathalie et moi, on est des purs autodidactes. On a tout appris à nos dépens, comme on dit. Et faire partie d'un club d'entreprise, c'était aussi... Alors nous qui ne sommes pas en plus bordelais, enfin, je dirais d'origine, mais ça fait 25 ans qu'on est là, mais c'était de se dire, bah, essayer de rentrer dans un cercle d'entrepreneurs. Nous, avec une activité extrêmement disruptive, hein, par rapport aux entreprises classiques, et essayer de voir comment ça résonne, en fait, hein, auprès de ces entrepreneurs... Le club des entreprises, aujourd'hui, il y a 350 adhérents, etc. Et puis petit à petit, bah, j'ai fait mon chemin à l'intérieur de ça et je me suis rendu compte que nous, toute la connaissance qu'on générait en termes de développement durable, de réduction des déchets, etc., finalement, elle pouvait être transmise en fait, à travers ce club. Et quand le vice-président en charge du développement durable est parti, qui lui était plutôt spécialisé sur les déplacements, qui est aussi un gros sujet dans les entreprises, j'ai proposé moi ma candidature et donc ça fait 5 ans que je pilote cet atelier Et notre idée, elle est un peu comme la ressourcerie, c'est comment on génère de la connaissance, en fait, comment on la génère, puis on la transmet, puis on embarque des gens. Bon, c'est vrai que sur 9 ans, enfin, je dirais, ce qu'on parlait de l'écologie il y a 9 ans ou du développement durable, et ce que c'est aujourd'hui, là, c'est devenu carrément absolument essentiel. Et donc, on est du coup devenu un rôle essentiel, même dans le club, sur ces sujets. Et moi, j'ai même, enfin, je dirais, quelqu'un qui est salarié chez nous, Florian en l'occurrence, qui lui a du temps qui est financé en fait pour accompagner les entreprises, faire un bilan aussi, développement durable, etc. Donc on fait des conférences, on fait des ateliers tous les mois, donc on a un vrai impact en fait avec ça. Donc ça fait participe en fait à la même logique que la recyclerie, c'est générer de la connaissance en fait et la transmettre et donner envie aux gens.
Pour que ce soit appliqué ailleurs.
Oui, parce que dans le processus que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il faut commencer par quelque chose. Et puis après, une fois qu'on a commencé, on en fait plein, en fait. Hein. C'est-à-dire, donc, il faut faire rentrer les gens dans un processus. Et après, ça s'élargit énormément sur tout un tas de sujets, en fait. Mais il faut avoir cette première marche, en fait. Donc, il faut faciliter cette première marche.
D'accord. Et en fonction, j'imagine, des différentes entreprises que vous avez face à vous, dans ce club, les actions ne sont pas les mêmes. On vise les mêmes choses, c'est-à-dire réduire telle chose ou telle chose, mais on n'agit pas de la même façon si on a une... selon le métier que l'on pratique.
Oui, c'est ça. Bah, là, du coup, c'était vraiment l'apport de Florian qui, lui, avait fait des études dans ce domaine et donc qui a élargi aussi le spectre de ce qu'on pouvait délivrer comme connaissances, à élargir évidemment à tous les sujets qui concernent le développement durable, hein, où il y a aussi le social. Donc, il y a une partie de recherche, il y a une partie de gens qui sont des connaissances. Mais ça, c'est un peu, enfin, je dirais que la structuration de la recyclerie, c'est-à-dire ce qui nous a fait progresser, ce qui nous a fait atteindre une certaine transversalité comme ça sur tout un tas de sujets, c'est aussi d'avoir agrégé des intelligences. Et chacune de ces intelligences est venue apporter une pierre complémentaire. Véronique, par exemple, qui s'occupe des RH chez nous, a vécu énormément à l'étranger, 15 ans en Irlande, etc. Et ben, grâce à elle, et puis aux connaissances qu'elle avait, et puis une très grande maîtrise de la langue, ben, on a pu monter un projet européen, Erasmus+, avec plein de pays, etc. Donc, quand on est à l'animation aussi, qui est un sujet extrêmement important, c'est comment on transmet aux enfants, comment on transmet aux collégiens, enfin, comment on fait des visites, enfin, tout ça, comment... Ben, là aussi, c'est pareil, ben, il faut qu'il y ait une personne qui soit en charge de ça, qui prenne en main, en fait, tout ce secteur. Et c'est comme ça qu'on s'est développé, en fait, en agrégeant ces intelligences. J'ai pas cité, c'est Alice, j'ai cité les autres. Voilà, donc, okay. Donc c'était un peu ça, c'est-à-dire... c'est pour ça que c'est beaucoup d'expérimentation, c'est qu'on a été ouvert en fait à toutes les possibilités qui se présentaient. Et puis après, bah, celles qui fonctionnaient, on essaie de
vous
pérenniser.
Avez testé, en somme.
Voilà, tout à fait. Bah, comme accueillir des gens en bénévolat. On leur dit, bah oui, c'est possible. Et puis voilà, on a des gens qui sont là depuis le début, notamment des seniors qui sont là depuis le début, parce que les plus jeunes, à un moment donné, il faut qu'ils retrouvent un travail, notamment pour gagner leur vie. Mais des seniors qui sont là depuis le début, qui viennent tout le temps, très régulièrement. Et
qui s'épanouissent et
voilà, qui
contribuent
voilà, oui.
Au bon fonctionnement de
Tout à fait, quand je dis
l'atelier.
Qu'on peut accompagner des gens voilà, en sortie de burn-out, en sortie de... c'est parce qu'on a dit aussi, bah oui, pourquoi pas, enfin, venez, on va voir ce que ça donne. Et là, on s'est rendu compte, en fait. C'est aussi d'avoir un système ouvert, c'est ça qui nous a permis de faire ces expérimentations et de faire ces constats, en fait, de l'action sociale qu'on pouvait mener dans toutes ces articulations, en fait.
Admiratif, je suis admiratif, Fabrice.
C'est trop.
Non, c'est pas trop. Je trouve que c'est intelligent et puis c'est nécessaire aujourd'hui.
Oui, ça c'est nécessaire.
C'est l'urgence.
Oui, tout à fait. Mm-hmm.
Vous parliez aussi de l'association Renaître. Alors, je vous laisse nous la présenter, dont vous êtes l'administrateur.
Oui, alors là, c'est encore un sujet là qui est plus proche en fait du plaidoyer. Hein. C'est vrai que nous, nos structures associatives à but non lucratif qui traitent ce secteur des déchets qui est de pas détruire en fait, bah c'est un des secteurs du coup qui est le moins financé. On met beaucoup d'argent, voire 90% d'argent public dans des incinérateurs, dans des enfouissements, et nous on a globalement en France très peu de moyens pour faire ce métier avec toutes les articulations dont je vous ai parlé et tout l'impact positif qu'on peut générer. Donc il faut du coup aller sur le champ je dirais politique, en tout cas aussi sur le champ organisationnel. Et le champ organisationnel, bah, c'est se fédérer déjà, d'être se fédérer entre structures, de faire l'échange de compétences, d'accompagner des nouveaux projets, etc. Et donc, en effet, on est très investi là-dedans, dans l'organisation qu'on a eue, nous, de toujours avoir envie de faire du transfert de savoir. On fait des formations, etc. Donc, on est tout à fait dans cette logique. Après, dans la même idée, enfin, je dirais de développement de notre métier, parce que là, il est important, puis en plus, c'est la métropole. On s'est fédéré aussi à 5 acteurs sur les territoires qui sont le Relais, les Compagnons Bâtisseurs, le Livre Vert et R-Cube, à envisager de faire un grand village du réemploi, enfin, un grand village où on pourrait trouver toute l'offre de ces produits, j'irais de seconde main. Et là, c'est un grand village qu'on est en train de réfléchir. Ça fait 2 ans qu'on y travaille dessus. On cherche un terrain sur la métropole pour le construire, avec un soutien politique pour le faire. Et là, si on arrive à cette échéance, qui serait plutôt vers 2023, à pouvoir construire ce grand projet, ce serait une première européenne, en fait, hein, de rassembler autant d'acteurs et d'avoir une offre de seconde main aussi riche. Donc voilà, on manque pas de sujets, on manque pas de projets.
Pas d'idées non plus.
pas d'idées
de
non
temps
plus.
Peut-être, parce que comment vous faites pour gérer tout ça, franchement?
Je sais pas, parce qu'au final, moi qui ai travaillé à Paris dans la communication, j'ai pas l'impression que je fais beaucoup d'heures par rapport à ce que j'ai fait dans ma jeunesse, dans ces métiers de la communication. On travaillait énormément, des charrettes la nuit et tout. Là, je trouve que c'est quand même... Non, après, parce que...
C'est la qualité aussi, peut-être, de ce que
voilà,
vous faites.
Voilà, je pense que c'est la qualité du travail qu'on produit, la qualité de vie qu'on a au travail, à avoir envie de faire ce qu'on fait. Après, c'est vrai aussi, des fois, on déborde. Le week-end dernier, on a fait un marché zéro déchet sur la plateforme. On doit investir la maison éco-citoyenne le week-end du 14 et 15 novembre, pendant la semaine européenne de réduction des déchets. Donc là, on va faire vie ma vie à la recyclerie un petit peu. On va mettre les ateliers, on va montrer les objets. Et puis après, en décembre, on a aussi un marché de créateurs qu'on organise sur la plateforme. Donc c'est vrai qu'aussi, on déborde
varié,
comme ça. Voilà, voilà.
C'est original, ça permet de ne pas s'ennuyer, d'avancer, de créer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu, mais c'est aussi les articulations de la vie. Enfin, c'est un peu ce qu'on voit, c'est qu'on sort de notre zone de confort à ne pas faire tout le temps la même chose. Donc, y a un certain effort à faire. L'effort, il amène aussi des compliments, parce que du coup, là, sur ce marché, les partenaires qui sont venus, tout ça, les gens nous complimentent de le faire. Et puis, les compliments, ça amène au bonheur. Donc, je fais un raccourci souvent. L'effort mène au bonheur. L'effort mène au bonheur, en fait. C'est ça, le raccourci.
C'est une jolie formule.
Oui.
Donc, finalement, plein de projets, plein de choses qui sont à venir. Hein,
voilà.
Et puis, de nouvelles idées à creuser, et notamment celle de ce grand village qui...
Voilà, qui j'espère verra le jour.
Oui, qui est une idée absolument incroyable.
Voilà. Donc, on peut nous retrouver sinon sur les réseaux sociaux, évidemment, Atelier d'Éco Solidaire sur Facebook, mm-hmm. atelierdécosolidaire.com sur Internet,
le site, et
les réseaux sociaux, etc.
Voilà. On peut aussi aller vous rendre visite pour voir ce bel espace, ce magnifique showroom. Merci Nathalie et puis tous les autres aussi.
Absolument, oui.
Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Fabrice?
C'est la vie de château, pourvu que ça dure. Je sais pas si c'est ça.
Je sais pas. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses à Nathalie, à vous, à toute l'équipe.
Merci beaucoup.
Et à l'Atelier d'Éco Solidaire. Et puis, merci de nous avoir accordé cette interview. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. C'était une première. Je ne vous avais encore jamais interviewé. Chose faite. Merci Fabrice. Bon week-end. Et puis, écoutez, à la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.